Dieu soit loué. S'il y a des blancs, vous serez bienveillants envers moi. Parce que je me remets difficilement et les forces ne sont pas encore tout à fait là. Mais Dieu est avec ma bouche, avec mon cœur, et je crois que ce matin, il peut encore nous étonner, nous émerveiller. Notre lecture se fera dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8, à compter du verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc quand elle fut levée. Elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Que Dieu me soit en aide. Donc nous retenons essentiellement ce verset. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous témoignez, et j'ai entendu des choses excellentes dans ce lieu. Nous témoignons. J'ai témoigné il n'y a pas très longtemps, et je pense qu'il fallait le faire, c'était bien de le faire, comme pour vous. Mais notre témoignage n'est pas la semence. Le témoignage est un moyen d'interpeller nos semblables. Et Dieu nous demande de témoigner. La semence, celle que Dieu désire voir être déposée dans les cœurs, c'est sa parole. La voilà, la semence qui génère la vie. Nos belles paroles, si belles soient-elles, notre vécu, si merveilleux qu'il ait été jusque-là, il y a des choses à dire, notre capacité à convaincre, notre savoir-faire, tout cela n'est pas la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Notre témoignage appuyé par l'Esprit de Dieu interpelle. Il peut amener une âme à s'interroger, l'amener à l'orienter vers Dieu. Mais en aucun cas, nos paroles ne générera la vie éternelle. Pierre le dit, lorsque, au pied du Seigneur, il dit à Jésus, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà la semence qui doit être mise dans les cœurs. Pourquoi je dis cela ? Parce que souvent nous témoignons, et si nous n'y prenons pas garde, nous nous racontons. Alors il y a des fois des bonnes choses qui sont dites, il y en a parfois des moins bonnes, et on pense faire une bonne chose, faire du bien, et parfois le résultat est loin d'être là. Ce qui doit être touché, ce qui doit être changé, remplacé, vous le savez, ce sont nos cœurs. En acceptant Christ dans sa vie, dans notre vie, en reconnaissant son œuvre accomplie à la croix, vous savez ce qui se passe ? C'est un cœur amélioré, transformé. C'est un cœur neuf qui nous est donné en remplacement de l'ancien cœur. Ce n'est pas un replâtrage. Un cœur neuf pour une vie nouvelle. C'est cela la conversion. C'est cela le message de l'Évangile, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. La conversion authentique, véridique, marque un homme, une femme pour le restant de ses jours. On doit pouvoir, lorsque l'on se convertit, mettre une date sur le départ de cette vie nouvelle. Ce fut pour moi un soir de juin 1972, c'est très clair. Car un cœur neuf m'a été donné pour remplacer le cœur du vieil homme que j'étais. La conversion, c'est le pardon de nos péchés. Alléluia. C'est le règlement vis-à-vis de Dieu de notre passé coupable. Ce qui n'empêche pas de réparer, ceci dit au passage, les torts que l'on a pu faire à autrui. Si j'ai volé, je me dois d'aller trouver celui que j'ai volé pour lui redonner ce que je lui ai pris. La conversion, ce sont des premiers pas dans le chemin de la vie. C'est aussi l'expérimentation de l'accompagnement de l'Esprit qui désormais a fait sa demeure en nous. Alléluia! Vous ne dites pas Amen, d'avoir avec vous, en vous, la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vous accompagne, qui vous inspire, qui peut vous dire, fais ceci, non, ne fais pas cela, retiens-toi, retiens ta main. L'Esprit qui peut nous faire comprendre les Écritures, la conversion, et je dirais que c'est à partir de là, c'est de là qu'est partie, pour moi, pour vous, une vie d'aventure spirituelle, de découverte, de dépassement de soi, d'entreprise réussie. C'est ça, la conversion. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, je me répète, ce ne sont pas nos paroles qui vont engendrer la vie éternelle en nous, cette vie abondante que Dieu a mis dans nos cœurs. La semence, c'est la parole de Dieu. Et il nous faut toujours revenir à la parole. J'ai fait il y a quelque temps, lors d'une intervention comme celle-ci, référence à ce livre des Actes des Apôtres. C'était Acte 10, où nous avions vu qu'il y avait 8 points essentiels qui ressortaient du discours de Pierre. Et j'avais pris les 4 premiers points. L'universalité du salut, l'envoi de la parole faite chair, Jésus. Le troisième, le porter à notre connaissance. Et le quatrième, la mort de Jésus sur la croix. Nous avions vu que ce discours de Pierre magnifique, c'était un résumé, un condensé, un digest. Pierre ayant eu cette capacité de par Dieu de pouvoir condenser le texte de l'Évangile, de tout l'Évangile, de le synthétiser. J'aime bien quand c'est synthétisé. J'aime bien ce qui est bien arrêté, concis, précis. Et ce passage des Actes, que nous l'avions vu, était un outil, pouvait être un outil possible, utile, pour qui désirait témoigner et répandre la bonne nouvelle. Surtout lorsque, ayant devant soi un interlocuteur qui s'est laissé interpellé, qui tout à coup vous a regardé, vous a dit « Attendez, mon ami, là, ce que tu me dis, ton témoignage, là, ce que tu viens de me dire m'intéresse. » C'est-à-dire si vous tombez sur quelqu'un d'ouvert à l'Évangile. C'est le moment, non pas de l'abreuver de vos paroles, de paroles, mais d'essayer de déposer en son cœur, de mettre en son cœur les paroles de vie éternelle que Dieu nous a laissées au travers de son livre, dans son livre. Il nous a été précisé dernièrement par Jean-Marc, c'était le culte du dimanche 15 juin, vous voyez, c'est précis, ça m'a marqué. Il nous a été précisé par lui qu'il y avait de la part de Dieu une demande pressante de témoigner. Parce qu'à l'évidence, il y avait des besoins réels auxquels Dieu voulait répondre. Et cette parole était inspirée. Et je confirme, Dieu veut que nous témoignions. Dieu veut que sa parole soit répandue, que nous fassions l'effort de déposer dans les cœurs de nos contemporains cette semence qu'est la parole de Dieu. Et il faut prendre très au sérieux cette demande de la part du Seigneur. Car les temps sont difficiles, vous le savez. Ils vont sans doute l'être encore plus. Vous le savez, Dieu a prévenu, et je sais de quoi je parle. c'est le moment de témoigner. C'est le moment de laisser dans les cœurs la parole de Dieu qui est semence de vie éternelle. Alors j'avais parlé de l'universalité du salut. Je reviens sur ce point. Vous savez, le salut de Dieu est étendu à tous les hommes. Dieu ne fait point de favoritisme, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable, je retiens, Dieu ne fait point de favoritisme. Il n'y a plus ni juif ni grec, mais à tous, le salut est offert. C'est l'universalité de ce salut. Salut de Dieu étendu à tous les hommes. Et je crois vous l'avoir peut-être déjà dit, mais je le dis ce matin, je le redis. J'aime voir le visage de nos sœurs que sont ce matin présentes, Marceline et Habiba, de couleur noire. J'aime voir ces visages. Les voir confesser Jésus-Christ. J'aime voir les yeux bridés d'un Asiatique briller de satisfaction, de plaisir de connaître Jésus comme sauveur. Et vous le savez, pour les avoir fréquentés pour facilement plus de 30 années, j'aime voir le visage buriné, cuit par le soleil d'un de nos frères, d'une de nos sœurs, Jean du Voyage, témoignant de la grâce qui nous est manifestée en Jésus-Christ. Je ne suis pas raciste. J'aime les gens de couleur, qui ont une peau différente de la mienne. Et je vous invite, vous aussi, à aimer vos frères de couleur. Peut-être y a-t-il parmi nous quelqu'un qui a dans son cœur une réticence, qui a du mal à aimer un frère de couleur, une sœur de couleur. Je dis, mon ami, règle ce problème avec Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Tu es appelé à aimer ton prochain, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses origines. L'Église de Dieu est un ensemble composé de nationalités diverses, et moi, ça me plaît. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni noir, ou blanc, jaune ou rouge, mais des hommes et des femmes que Dieu a aimés. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu, d'ailleurs, n'hésitera pas un seul instant à envoyer dans le monde son Fils unique, Jésus, pour sauver tous les hommes, tous les hommes. Il est à noter que dans la Bible, il y a un passage, dans Exode 22-21, j'en ai au moins relevé un, qui nous demande d'aimer l'étranger et de faire preuve de bienveillance envers lui. Tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Dites-moi, n'avons-nous pas, nous aussi, été étrangers? Vous avez tous ces relents de racisme, d'antisémitisme, me font mal. Mais il faut que nous sachions, que nous soyons conscients que peut-être, dans les années qui viennent, les chrétiens aussi feront l'objet d'ostracisme et de persécution. C'est pourquoi pensons plus souvent à nos frères et à nos sœurs persécutés et prions pour eux. Eux qui confessent Jésus-Christ sous les coups, qui acceptent d'aller jusqu'à la mort, mais ne veulent pas renier leur maître. N'étions-nous pas, nous aussi, des étrangers pour Dieu? Avant d'être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, nous étions très loin de Dieu, mais très très loin. Un abîme de péché, de souillure, de violence, de haine envers lui pour certains, pour d'autres d'ignorance, d'incrédulité, nous séparait. Mais son amour pour les hommes a eu raison de tout cela. Dieu nous aime. Dieu nous aime sans distinction de couleur de peau, d'origine, d'ethnie, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons intelligents ou pas, que nous ayons fait des études ou n'en ayons pas fait. Dieu nous aime du même amour. Et ça, ça me réjouit. Et ça, ça réjouit mon cœur. Nous étions des apatrides et des étrangers errant dans le monde, sans aucun statut. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile qui est en Jésus-Christ est que nous obtenons par adoption le statut définitif, de fils et filles de Dieu, avec un nom nouveau dont l'inscription est faite dans le livre de vie. Nous ne sommes plus des étrangers pour Dieu, mais nous sommes connus de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu et son ciel nous est désormais ouvert. Christ est monté pour nous y préparer une place. Vous le savez, il n'entrera dans le ciel que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais ceux-là sont assurés, nous sommes du nombre, que nous entrerons. C'est pour bientôt, car je crois que Jésus revient. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38. Si tu tardes, mon ami, à faire inscrire ton nom dans ce livre de vie, je te presse, je te prie de le faire aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ comme sauveur. C'est solennel, les temps sont comptés. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu n'as pas confessé ton péché à Dieu, si tu ne lui as pas dit ta misère, et que tu ne t'es pas réclamé du sang de Jésus pour que cela ne soit plus, et que ces péchés coupables soient effacés de ton cœur, tu n'es pas sauvé, mais tu es perdu. Le sang de Jésus a coulé à la croix du calvaire. Car Dieu a envoyé, Dieu a pourvu. Il a envoyé la parole parmi les fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. La parole faite chair désigne ici l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus devenu homme parmi les hommes. Je ne sais pas si on réalise bien la démarche. D'abord, il en a coûté à Dieu d'envoyer son Fils. Demander à une maman ou demander à un père d'envoyer son fils ou sa fille mourir dans les souffrances que le Christ a connu, c'est-à-dire sur une croix. C'est pas possible. Eh bien, Dieu a pesé tout cela, Dieu a vu tout cela, et il a accepté d'envoyer son fils Jésus mourir pour nous. Prendre notre place pour porter notre péché, et nous savons que c'est par lui que nous sommes guéris de tous nos maux. Le Christ était la lumière véritable en venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, Jean-Marc nous l'a rappelé tout à l'heure, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns cependant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Peu importe leur race, leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, ou sous l'impulsion d'un désir instinctif, ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître, et nous en avons parlé tout à l'heure. J'ai pris soin de vous citer ce magnifique passage du prologue de l'évangile de Jean, car il est des plus explicites sur la venue de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En acceptant de prendre un corps identique au nôtre, Jésus a voulu s'identifier à chacun de nous. Étant précisé qu'à la différence qu'ayant pris un corps semblable à nous, son corps était exempt de péché. Il était l'agneau sans défaut qui pouvait être offert à Dieu. Les Écritures le déclarent comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Notre révérend Jean-Marc, c'est comme ça que je l'appelle de temps en temps pour le taquiner, ou le très respectable ancien Michel, n'ont pas le pouvoir d'enlever un seul de nos péchés si nous avons fauté. Vous m'entendez? Ils n'ont pas le pouvoir. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, n'a pas le pouvoir d'ôter le moindre péché. C'est bien clair dans votre cœur. Parce qu'il y en a, dès qu'ils ont fait un pas de travers, il faut que je voie le pasteur, il faut que je lui en parle. Et ils pensent qu'en 10 ans, leur forfait, ce qu'ils ont fait, ça y est, ils vont être absous. Enfin, ça va, la chose va s'atténuer. Ça soulage peut-être. Seul. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu nous purifie de tout péché et ôte les péchés de nos cœurs. Si vous voulez que votre paix soit véritable, et si vous avez commis une faute ou des fautes, et si vous avez besoin du pardon de Dieu, c'est à Dieu qu'il faut aller. C'est dans l'intimité de Dieu qu'il faut lui dire votre péché, le nommer par son nom et lui demander pardon. Dès l'instant où vous confessez votre péché, puis vous réclamez du sang de Jésus pour qu'il ne soit plus porté à votre compte, qu'il ne souille plus votre cœur, le sang de Jésus efface. Le sang de Jésus efface. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. Et puis il y avait le porter à notre connaissance. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Vous savez ce qui est arrivé, vous savez comment. Conformément à la prophétie ancienne, l'évangile est répandu aujourd'hui dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, dans les coins les plus reculés, afin que nul n'en ignore. Voyez-vous, le monde plus que jamais a besoin du salut de Dieu. Le monde gît dans le malin. Il est sous l'emprise du mal. Et les hommes font le mal, hommes et femmes. Et devant cette recrudescence du mal, il y a la recrudescence de l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Vous aimez sentir sa présence quand vous êtes ici le dimanche matin? Non? Moi j'aime. Pourvu qu'il y ait un don spirituel, une prophétie, c'est le bonheur. Sa présence est là, dans nos vies et dans nos rencontres. Car dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le moment, peut-être pour quelqu'un, d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé dans la présence du Saint-Esprit. Pardon peut être immédiat, instantané. Alors, il appartient à l'homme d'accepter, de ne pas accepter, mais nous savons qu'il a été mis dans le cœur de l'homme également la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, Ecclésiaste 3:11, Dieu a une multitude de moyens pour interpeller l'homme. Je me souviens, avec émotion, voir mon père s'émerveiller de la nature. Il arrivait devant un coucher de soleil, il bénissait Dieu, il était scotché. Il l'était devant, oui, un coucher de soleil, un oiseau travaillant à confectionner son nid ou à prendre soin de ses oisillons. Il s'émerveillait devant la nature, une mer calme d'huile ou une mer déchaînée. Il s'émerveillait toujours. Ça lui parlait. Dieu a mille moyens d'interpeller les âmes. Quelle bonté! Quel amour! Dieu aime les hommes. Dieu aime notre monde. Nous, il nous aime différemment puisque nous sommes devenus ses enfants. C'est un amour encore plus grand, dirais-je, plus spécifique, propre à notre statut d'enfant de Dieu. Mais Dieu aime le monde. Dieu aime les hommes. Alors, lorsque vous témoignez de la grâce de Dieu, vous portez à la connaissance de celui qui vous écoute l'existence de Dieu. D'où l'importance que ce témoignage que nous sommes appelés à donner soit précis, concis, simple, afin que tous comprennent. Moi, j'ai entendu une fois, dans une rencontre écuménique, une religieuse qui nous a parlé. Elle avait des mots comme ça, hein, comme ça. Il ne tiendrait pas dans ma Bible. Hein. Elle employait des mots comme cela. Nous cherchions, Agnès et moi, le Seigneur. Nous étions en quête. Je puis vous dire que ça ne nous avait pas comblés ni satisfaits. Ce témoignage ne doit jamais être un exposé de théologie, de philosophie religieuse, un comparatif des religions, en aucune manière un propos qui condamne. Rappelez-vous, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et ce qu'il a appris de lui, nous l'avons ici, dans sa parole. Nous ne comprenons pas tout. Et peut-être aurions-nous aimé aussi que Jésus soit plus prolixe, hein, qu'il ait parlé davantage. Eh bien non. Ce qui est dans le livre est suffisant pour notre instruction et pour que nous parvenions au salut. Jésus qui a su parler à nos cœurs. la semence doit être déposée dans les cœurs et cela nous revient. Vous connaissez la parabole du semeur, hein, cette parabole que nous avons lue en introduction. Un semeur qui sortit pour semer, voilà, et puis il sème le long du chemin, il sème là où il y a du roc, il sème là où il y a des mauvaises herbes, des ronces, des épines, puis enfin il trouve la bonne terre. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un drôle d'agriculteur. Bah oui, un agriculteur qui sème le long du chemin ou qui n'a pas su bien contenir sa semence, c'est pas un bon agriculteur. Qu'il aille semer là où il n'y a que du roc, je ne sais pas à quoi il croit, mais il n'est pas bon non plus. Qu'il sème là où il y a des ronces, des épines, c'est-à-dire qu'il n'ait pas eu le courage d'abord de travailler son champ, de le retourner, d'enlever tout ce qui est mauvaises herbes. Ce n'est pas non plus un bon agriculteur. Mais enfin, il trouve la bonne terre et là, il met de sa semence. Jésus dit, j'ai ainsi parlé, je vous ai ainsi parlé, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous l'avons vu, et c'est, je crois, peut-être là, non. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui l'entendent le long du chemin. Mais il nous est dit, le diable vient et leur fait douter de la véracité de cette parole afin qu'ils ne soient pas sauvés. Il y a ceux qui se tiennent sur le roc, qui entendent la parole mais ne peuvent s'enraciner. Ils sont assis matériellement, socialement, intellectuellement. Ces gens-là vous diront, c'est gentil ce que vous m'avez dit, mais c'est un beau discours, monsieur, mais bon, passons. Quant à la semence tombée parmi les épines, vous le savez, cela représente les soucis ou les richesses ou les plaisirs de la vie qui ont vite fait d'étouffer la semence. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Et cela porte du fruit. Et cette parole peut générer la vie éternelle. Je dis clairement ma pensée, nous ne sommes pas meilleurs que ce brave agriculteur. Non, nous ne sommes pas, pour ce qui est de semer la parole, d'être des serviteurs efficaces, nous ne sommes pas meilleurs que cet agriculteur. Mais Dieu, quand nous semons, ne nous demande pas de sélectionner le terrain susceptible d'accueillir favorablement sa parole. Ne nous demande pas ça, Seigneur. Il nous dit de semer. Il nous dit d'aller partout le monde, annoncer la bonne nouvelle, répandre la semence. Car écoutez bien, il lui appartient à lui, Dieu, de faire lever cette semence. Ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas nous qui ferons lever la semence. C'est Dieu qui l'a fait lever. Nous, il nous demande de semer. Et moi, ce matin, je ne fais que semer. Je ne peux pas faire lever, mais il appartient à Dieu de faire lever cette semence. Dieu nous donne l'ordre de semer. Et je l'ai souligné au départ, Jean-Marc nous a bien exhorté dernièrement à le faire, car le temps était venu de répandre la parole. Il lui appartient de faire lever la semence. Que le terrain soit favorable, c'est-à-dire qu'il rencontre une bonne terre, comme ça a été le cas pour nos cœurs, hein, puisque ça a germé. Donc, notre cœur était ouvert, l'esprit était à l'œuvre, et notre cœur a été amendé. ou que celui-ci soit encombré d'épines, de ronces, ou de nombreux cailloux comme la terre de Krak, où tous les champs sont bordés, si vous venez nous voir, vous verrez dans la campagne, tous les champs sont bordés de non pas de talus, mais de murets de pierre. Puis après, il y a le talus dessus. Mais sur 80 cm, 1 mètre, ce sont des pierres alignées, des murs de pierres sèches. Et on s'est questionné, on a demandé, mais pourquoi ? Et on nous a dit que lorsque les cultivateurs, dans le passé, labouraient le champ, ils ne cessaient pas de rencontrer de la pierre. Donc au fur et à mesure, ils les prenaient et ils faisaient des murs. C'est l'explication. Dieu fait lever la semence, il était important de le souligner, et ça doit être un encouragement pour chacun de nous. C'est important de souligner et de s'en imprégner. Je sème et je n'ai pas à me lamenter si je ne vois rien. Je sème et je n'ai pas à me décourager si a priori, ai-je bien fait, ai-je mal fait ? Je sème la parole, non pas mes paroles, mais la parole. J'essaye de laisser un verset ou une portion d'évangile ou une Bible. Mais je sème et Dieu fera lever sa semence. C'est à lui que ça revient. Prions donc le Seigneur. Merci Seigneur pour ton exhortation, pour l'aide que tu m'as apportée, que cette parole puisse trouver un cœur, nos cœurs, et porter son fruit, nous amener à réfléchir, et que nous puissions être encouragés à semer, sachant que c'est toi qui fais le reste, qui fais lever la semence. J'ai foi en ta parole, j'ai foi en ta personne, j'ai foi en l'action de ton esprit, et je sais que si je fais ces choses, si mes frères et mes sœurs le font, nous verrons des fruits à cette semence qui peut-être aura été semée dans les larmes, dans la difficulté, dans l'opposition, mais qui va germer un jour, prête à s'épanouir dans la vie éternelle, car elle est semence de vie. Que ton nom soit béni. Amen.